France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les syndicats appuient sur pause. Ils donnent jusqu'à mercredi au Premier ministre Sébastien Lecornu pour renoncer au plan Bayrou sur le budget 2026. Sinon, ils relancent la mobilisation. Explication à suivre et question sur cette stratégie à notre invitée, la leader de la CGT. Sophie Binet avec nous dans un instant. À suivre encore, le transfert de 47 djihadistes français de Syrie en Irak. Ils y seront jugés. La peine de mort y est en vigueur. La polémique sur les drapeaux palestiniens. Bruno Retailleau demande au préfet d'interdire aux maires de les hisser lundi prochain. Nous verrons ce que dit la loi. Un conseiller régional de Vendée qui trouve la mort dans une soirée chemsex à Tours. Et puis la chaleur sur la France, un 19 septembre. Pas la canicule, mais tout de même.
Les grosses chaleurs, de toute façon, c'est invivable. On ne peut pas rien visiter parce qu'en fait, c'est insupportable. On est obligé de rester cloîtré parce qu'il fait trop chaud. Donc ouais, ça devient compliqué.
Reportage à Avignon. Prévision complète dans une demi-heure. Et nous verrons si ces températures constituent une anomalie. À partir de 13h30, sauvé des flammes il y a 6 ans, les tours de Notre-Dame de Paris rouvrent leurs portes au public demain. Visite guidée dans une demi-heure.
Nous sommes à 69 mètres de haut. Voilà, la Sainte-Chapelle juste devant vous. Puis la Tour Eiffel, bien entendu. On est un peu hors du temps quand on monte dans ces tours.
Et nous serons avec nos invités Marie Lavandier, présidente du Centre des Monuments Nationaux, et Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. 13h50, c'est la France. Là, il sera question du matrimoine à Concarneau avec l'écrivaine Virginie Troussier. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Frédéric Pommier et l'historien Jean-Noël Jeannet. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ni stop, ni encore pour le mouvement social contre les projets de budget du gouvernement. Mais un ultimatum posé au Premier ministre après la mobilisation d'hier. 500 000 personnes pour les autorités, 1 million pour les syndicats. L'intersyndicale donne jusqu'à mercredi prochain à Sébastien Lecornu pour répondre à ses revendications sous peine d'une nouvelle journée d'action. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Les syndicats croient vraiment au dialogue avec le Premier ministre ?
Il lui envoie en tout cas ce message qui est de dire que les cartes sont désormais entre ses mains alors que le gouvernement n'est pas encore formé, qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Les syndicats donnent à Sébastien Lecornu 5 jours de réflexion, 5 jours pour décider de ce qu'il va faire, 5 jours pour laisser décanter après cette journée de mobilisation particulièrement suivie hier, une démonstration de force pour les syndicats, pour qui le Premier ministre devra entendre la colère, sans quoi elle ne fera que s'amplifier. Les syndicats qui demandent plus de justice sociale, fiscale dans le futur budget, l'abandon de l'année blanche, l'abandon du doublement des franchises médicales, l'abandon encore de la réforme des 64 ans. À Sébastien Lecornu d'avancer ses pions. Maintenant, s'il veut tenir ses promesses de rupture, un leader syndical me disait ce matin être comme Saint Thomas et ne croire que ce qu'il voit. Un autre ne demande qu'à être convaincu. Est-ce que 5 jours suffiront ? Opération séduction de Matignon ou grande illusion pour les syndicats ? De tout ça dépend la tenue ou non d'une future journée de mobilisation.
Merci Maxime Debs. Bonjour Sophie Binet.
Bonjour.
Secrétaire générale de la CGT, merci d'être avec nous. On a entendu vos conditions, l'abandon de l'ensemble du projet de budget de François Bayrou, plus l'abrogation également de la réforme des retraites et le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Vous pensez vraiment que Sébastien Lecornu est prêt à aller jusque-là ?
Eh bien écoutez, c'est très simple. Il a 5 jours pour répondre à nos revendications et si d'ici mercredi il n'y a pas répondu, nous allons organiser très très rapidement une nouvelle journée de grève et de manifestation qui sera encore plus massive que celle du 18 septembre. Parce que le 18 septembre a été très fort avec des travailleurs et des travailleuses extrêmement déterminés parce qu'ils et elles savent qu'il y a des alternatives. Tout le monde sait bien que la solution, ça n'est pas de faire payer celles et ceux qui déjà depuis 8 ans sont toujours mis à contribution. La solution, c'est d'aller prendre l'argent là où il est, dans les grandes entreprises et chez les milliardaires.
Pourquoi répondrait-il à cet ultimatum au fond ? C'est à l'Assemblée nationale qu'il doit convaincre, c'est là qu'il doit faire voter son budget ?
Eh bien, écoutez, c'est simple. S'il n'y répond pas, il y aura une nouvelle journée de mobilisation très rapide, encore plus importante que celle du 18 septembre. Donc, c'est à lui de voir. Les cartes sont entre ses mains et derrière, les députés et l'Assemblée nationale prendront leurs responsabilités en conséquence.
Mais vous pourriez attendre que la discussion avec les partis se développe et attendre de connaître son projet de budget pour 2026 pour juger sur pièce ?
Nous avons trop attendu. On sait que le délai sur le budget est extrêmement court. Si on veut que le budget puisse être adopté avant la fin de l'année 2025, il faut qu'il soit présenté en Conseil des ministres mi-octobre, début octobre. Donc c'est maintenant que le Premier ministre doit dévoiler ses cartes. Il connaît nos exigences, elles sont très claires. Maintenant, nous voulons des réponses très claires. Et je le dis tout de suite, il n'y aura pas de possibilité d'enfumage. C'est oui ou non. Et si c'est non, il y aura mobilisation très fort. Et nous voulons une réponse à l'ensemble de nos exigences, y compris, et d'abord, l'abrogation de la réforme des retraites.
D'abord, c'est la première condition. Vous la mettez en tête. C'est ce que vous aviez dit en sortant de l'entretien avec le Premier ministre lundi.
Oui, bien sûr. Alors, la première chose, évidemment, c'est d'abord d'envoyer aux oubliettes le budget qui était celui du Premier ministre précédent qui faisait payer les travailleurs et les travailleuses pour les frasques des grands patrons. Celui-là, il faut l'enterrer définitivement, enterrer le doublement des franchises médicales, enterrer l'année blanche et donc la baisse des pensions, la baisse des prestations sociales, la baisse du salaire des fonctionnaires, enterrer la réforme de l'assurance chômage, enterrer la volonté de supprimer 3 000 postes dans la fonction publique. Ça, c'est le préalable. Et ensuite, il faut l'abrogation de la réforme des retraites. Oui, ça fait 2 ans et demi qu'on le demande et qu'on le répète.
Donc, toutes ces conditions, sinon une nouvelle journée d'action, il faudra qu'elle ait lieu très vite.
Oui, on prendra nos décisions, mais nous pensons que c'est ce que nous écrivons ensemble dans le communiqué, que cette journée d'action devra avoir lieu très rapidement.
Merci Sophie Binet. Première réaction après cette annonce ce matin sur France Inter, donc l'intersyndicale qui donne 5 jours à Sébastien Lecornu pour se plier à ces conditions. Nous verrons ce qu'il en est dans les prochains jours, puisqu'un rendez-vous a été proposé hier soir par le Premier ministre aux organisations syndicales. Que faire des Français partis faire le djihad en Syrie et qui ont été capturés par les Kurdes ces dernières années. Nous vous avons parlé cette semaine du retour en France de 10 enfants et de 3 femmes âgées de 18 à 34 ans. C'était mardi. Et on apprend aujourd'hui, bonjour Noé Pignède,
bonjour,
que 47 djihadistes français détenus en Syrie vont être transférés en Irak pour y être jugés.
Oui, et parmi eux pourraient se trouver des figures très importantes de Daesh, Quentin Lebrun, Thomas Collange ou encore Adrien Guial, des vétérans du djihad dont certains étaient très hauts dans l'organigramme de l'organisation terroriste. Les Kurdes détiennent 67 Français selon une source proche des renseignements. 47 seulement vont donc être transférés. On le rappelle, c'est le 2e transfert de Français de la Syrie vers Bagdad.
Est-ce qu'ils risquent la peine de mort, Noé,
oui,
qui est en vigueur en Irak ?
Oui, tout à fait. Pour les terroristes, la peine de mort s'applique en Irak. Et en 2019, les 11 hommes transférés ont été condamnés à la peine capitale. Peine depuis commuée en prison à perpétuité, des condamnations après des simulacres de procès expéditifs 30 minutes, sans vrais avocats ni traducteurs, des procès équitables, tentés quand même de justifier l'Élysée à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, la position de la France reste la même. Les djihadistes doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes, même si on sait que certains d'entre eux ont participé à l'organisation d'attentats sur le sol français et que des associations de victimes demandent leur rapatriement. Paris les préfère loin, en prison pour les hommes et dans des camps en Syrie pour les femmes et les enfants rapatriés au compte-gouttes.
Alors là, ce sont 47 djihadistes qui vont être transférés. On sait combien il reste de Français dans ces camps ?
Oui, dans le camp de Roj, au nord-est de la Syrie, il reste une 50aine de femmes qui refusent d'être rapatriées pour échapper à la prison en France et une 100aine d'enfants victimes du choix de leur mère.
Merci Noé Pignède pour ces informations. Lundi, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, Emmanuel Macron annoncera la reconnaissance officielle par la France d'un État palestinien. Pour l'instant, la Palestine est reconnue par les 3/4 des pays du monde, mais par seulement 11 des 27 pays de l'Union Européenne. Et cette décision va donner lieu à une bataille des drapeaux. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a demandé aux maires de hisser le drapeau palestinien sur le fronton de leur mairie. ce lundi, mais le ministre de l'Intérieur lui donne l'ordre au préfet de s'y opposer.
Oui, une réponse ferme du ministère de l'Intérieur. Un tel pavoisement est une prise de parti dans un conflit international, selon le document de la place Beauvau, qui évoque aussi un risque d'importation sur le territoire national d'un conflit international en cours. Il est donc demandé au préfet de faire cesser ce pavoisement et, le cas échéant, de poursuivre les élus devant la justice administrative. Une menace qui ne freine pas Bruno Piriou, c'est le maire d'hiver gauche de Corbeil-Essonne, en région parisienne, ville jumelée avec Jérusalem-Est. Le drapeau palestinien est accroché à sa mairie depuis un an et demi.
Je suis surpris que la préfecture ne me demande pas d'enlever le drapeau ukrainien. Est-ce que ça a importé le conflit ukrainien et russe dans notre pays? Pas du tout. Le drapeau ukrainien est un symbole de paix, de la même façon que le drapeau palestinien. Je suis un maire qui a condamné les attentats du 7 octobre, qui reconnaît l'État d'Israël, mais qui combat la politique de Netanyahou.
Un autre élu s'étonne de cette décision, je cite, ubuesque du ministère de Bruno Retailleau, alors qu'il s'agit, dit-il, d'accompagner une position diplomatique de la France.
Alors justement, drapeau palestinien, drapeau ukrainien, est-ce qu'il y a une différence de traitement? Si oui, pour quelle raison, Jérôme?
Alors, les règles qui encadrent le pavoisement des mairies sont assez floues, il faut le dire. Un arrêt du Conseil d'État qui date de juillet dernier à propos déjà du drapeau palestinien à la Courneuve donne un peu le cadre, ordonnance qui rappelle le principe de neutralité des services publics et l'interdiction de mettre des signes qui expriment une position politique ou religieuse. Le tribunal administratif de Versailles avait lui aussi été saisi en début d'année à propos cette fois de Saint-Germain-en-Laye. Le drapeau ukrainien est, selon les juges, une marque de solidarité et non un message politique. Des termes qui sont loin, vous l'avouerez, de lever la confusion.
Explication signée Jérôme Val. Est-ce lié à cette reconnaissance par la France de l'État de Palestine lundi? En tout cas, les autorités palestiniennes disent avoir arrêté en Cisjordanie l'un des principaux suspects de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers. C'était le 9 août 1982 dans le 4e arrondissement de Paris. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Confirmation ce matin du parquet national antiterroriste.
Oui, il a 70 ans. Hicham Harb était visé par un mandat d'arrêt international depuis 10 ans maintenant. Et il est bien l'un des 6 suspects, tous des hommes, renvoyés devant la cour d'assises spéciale de Paris cet été, fin juillet, pour cet attentat de la rue des Rosiers. Hicham Harb est accusé d'avoir supervisé le commando qui avait fait 6 morts en 1982. Le parquet national antiterroriste, qui parle d'une avancée majeure dans ce dossier, a confirmé ce matin qu'il avait bien été arrêté par l'autorité palestinienne via Interpol. 3 autres suspects sont toujours recherchés. Nizar Taoufik Hamada, Amjad Atta et Nabil Othman. Tous ont été repérés dans la région ces dernières années, en Cisjordanie, en Jordanie ou encore au Koweït. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a rappelé la détermination des autorités françaises dans ce dossier, estimant que c'est le fruit du processus initié par le président de la République, qui le conduira, vous en parliez à l'instant, à reconnaître l'État de Palestine lundi prochain. Emmanuel Macron qui parle d'un pas supplémentaire pour le droit et la vérité.
Merci Emmanuel Leclerc. C'est l'accident médiatisé de l'humoriste Pierre Palmade, il y a 2 ans et demi, qui a porté ce phénomène à l'attention du grand public. Le chemsex, ces soirées lors desquelles les participants prennent de la drogue pour avoir des relations sexuelles pendant plusieurs heures. Et bien, dans la nuit de dimanche à lundi à Tours, un homme est mort au cours de l'une de ces soirées. Il s'agit d'un chef d'entreprise bien connu en Vendée, également conseiller régional des Pays de la Loire, Laurent Caillot, âgé de 56 ans, également proche du ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Lucie Amadieu, cet homme est mort en pleine nuit.
Pendant un rapport sexuel avec 2 autres hommes de 30 et 51 ans, Laurent Caillot fait un malaise, perd connaissance, puis son cœur s'arrête. Immédiatement, l'un de ses partenaires appelle les secours. Il s'agit du locataire de cet appartement situé au 4e étage d'un immeuble dans le quartier du Sanitas. Ça fait 2 jours qu'avec Laurent Caillot, ils échangent via Grindr, une application de rencontre très utilisée dans le milieu LGBT. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet élu au conseil régional des Pays de la Loire aurait apporté de la drogue, de la MDMA, aussi connue sous le nom d'ecstasy, et de la 3M. Ce sont de puissants stimulants. Ces drogues de synthèse sont utilisées pour augmenter le plaisir et la durée des rapports sexuels dans les soirées chemsex.
Information signée de nos confrères d'ici Touraine. Une enquête est en cours. À Choisy-le-Roi, près de Paris, une marche blanche est organisée ce soir en hommage à Franz, à Samy, à Abdallah et à Amir, ces 4 hommes dont les corps ont été repêchés dans la Seine en quelques jours début août. Un homme d'une 20aine d'années est en détention provisoire, soupçonné des meurtres. Le motif pourrait être lié à leur orientation sexuelle. C'est donc à l'initiative de l'association Stop Homophobie que se déroule ce rassemblement. Et dans le cortège, tout à l'heure, il y aura des proches des victimes, dont Nadine, avec laquelle vous vous êtes entretenu, Marion Aquilina.
Depuis la mort de son fils, Nadine allume chaque jour une bougie dans la chambre où Franz a grandi.
Je ne comprends pas cette situation. Comment un individu, et d'ailleurs c'est un serial killer puisqu'il n'en a tué 4 en 16 jours d'intervalle, donc c'était des pulsions.
Le corps de Franz ainsi que ceux de 3 autres hommes ont été repêchés dans la Seine, près d'un lieu de rendez-vous homosexuel et près d'un squat où vivait le principal suspect et 2 des victimes.
Mon fils n'avait pas ce genre de fréquentation, donc je pense qu'on l'a attiré là-bas pour soi-disant faire un dossier ou un courrier, et c'est pour ça qu'il est tombé dans un guet-apens.
Pourtant, selon le parquet de Créteil, Franz aurait croisé son agresseur alors qu'il venait faire des rencontres gays. Une thèse à laquelle ne croit pas Nadine. Pour elle, Franz, c'est son fils de 48 ans, conseiller chez France Travail, passionné de voyage. Aujourd'hui, elle attend de pouvoir voir son corps.
Moi, ce que je veux, c'est aller l'embrasser et regarder ce qu'on lui a fait. Vous me direz, ça ne va pas m'avancer grand-chose. Mais moi, embrasser mon fils une dernière fois, j'en ai besoin.
Et la Marche Blanche a choisi le roi et l'occasion de rendre hommage aux 4 victimes. Leur meurtrier présumé a jusqu'ici préféré garder le silence.
Marion Aquilina, les échanges de migrants entre la France et le Royaume-Uni se poursuivent. Hier soir, la Haute Cour de Londres a donné son feu vert à l'expulsion d'un ressortissant de l'Érythrée dans le cadre de l'accord qui a été signé entre les deux pays. Un deuxième avion transportant des migrants expulsés vers la France a décollé ce matin outre-Manche, annoncent les autorités britanniques. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a estimé que ses soldats avaient besoin de son soutien dans la bataille qui les oppose aux Russes autour de la ville de Pokrovsk. C'est dans l'est du pays. Voilà pourquoi Zelensky s'est rendu sur place hier. Alors que les Russes font tout pour faire tomber ce verrou, puisque l'état-major de l'armée ukrainienne a recensé 220 combats hier uniquement dans ce secteur. Nos envoyés spéciaux sur place, Simon Le Baron, Gilles Galinaro et Yachar Fazilov, ont pu rencontrer des soldats de retour du front.
Valérie boite bas, sa démarche et ses mots témoignent de la violence des combats.
C'est la merde absolue. On manque d'hommes, on manque de drones. Les Russes avancent pas à pas. On les contient tant qu'on peut, au prix de nos vies.
Son camarade Andriy, blessé au bras, explique que les Ukrainiens ne contrôlent plus qu'une seule route d'accès à la ville, totalement évacuée sous la pression des Russes.
Ils ont toujours la même tactique. Ils aiment bien nous prendre en tenaille. Ils essayent de couper la route. Ce serait la plus grande perte pour nos mouvements, pour nos ravitaillements et nos approvisionnements en armes.
D'après le président Zelensky, 100 000 soldats ennemis sont autour de Pokrovsk. Andriy veut croire que les Ukrainiens peuvent encore les repousser.
Si les Russes lancent une grande offensive, ils auront d'énormes pertes. Avec une concentration de troupes si importante dans un si petit espace, notre artillerie pourra travailler efficacement contre eux.
Mais Petro sait que Moscou en fait un objectif majeur en vue d'hypothétiques négociations.
Le plan des Russes, ce n'est pas seulement de prendre Pokrovsk. Leur objectif, c'est de s'emparer de toute la rive gauche du fleuve parce qu'ils considèrent que c'est leur territoire.
Cela fait des mois qu'on l'a dit au bord de l'effondrement. Pokrovsk tient. Mais pour combien de temps ?
Simon Le Baron en Ukraine pour Inter. Et ce matin, la Commission européenne propose un 19e paquet de sanctions contre la Russie. Aux États-Unis, les vaccins contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle ne sont plus recommandés pour les enfants de moins de 4 ans. C'est ce qu'ont décidé hier les nouveaux experts nommés par le ministre de la Santé américain Robert Kennedy Jr., lui-même vaccino-sceptique. Alors on sait que certains Américains comme la Floride n'ont pas attendu cet avis pour d'ores et déjà supprimer l'obligation vaccinale, mais ce vote vient les conforter et cela aura des conséquences pour la population américaine, prévient l'immunologue Alain Fischer, professeur au Collège de France.
Il y a un certain degré de remise en cause de la vaccination qui comprend la rougeole avec oreillon rubéole. Tout ça est avec des déclarations antérieures de Kennedy qui disait déjà que la vaccination rougeole, c'est une option possible, alors que c'est un excellent vaccin dont l'efficacité est prouvée depuis très longtemps. Donc c'est un très bon vaccin qui protège contre une maladie qui n'est pas si anodine que cela. D'abord, qui est très transmissible. Donc quand il commence une épidémie, ça se propage très vite chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et puis, dans quelques cas, elle peut être grave. Il y a eu 3 décès de rougeole aux États-Unis ces derniers mois. Donc toutes ces remises en cause, même si on n'en connaît pas encore le détail, vont dans un sens de destruction d'une politique de protection de l'enfance et d'une manière générale des populations. C'est une catastrophe.
Alain Fischer au téléphone de Victor Dolande.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
L'été ne veut pas mourir, c'est encore une journée chaude et ensoleillée jusqu'à 35 degrés, plus de 30 à Bordeaux, près de 30 à Paris, 28 à Toulouse ou encore 27 à Lille. Nous vous détaillerons tout cela avec Élodie Calac dans quelques minutes. Anomalie ou pas pour une fin septembre, c'est une question, on aura la réponse dans un instant. D'abord allons à Avignon où de plus en plus de touristes choisissent précisément le mois de septembre pour son soleil, mais pour ses températures beaucoup plus supportables que celles de juillet et août. Sur place, Marion Bernard.
À l'image de Christian, croisé dans les rues d'Avignon et qui arrive d'Amiens. Et pour lui, les vacances sous canicule, c'est fini.
En tout cas, pour moi, oui. Enfin, les grosses chaleurs, de toute façon, c'est, pour le coup, c'est invivable. On ne peut pas rien visiter parce qu'en fait, c'est insupportable. Enfin, obligé de rester cloîtré parce qu'il fait trop chaud. Donc, ouais, ça devient compliqué.
Et puis, l'autre critère déterminant de Christian et de son ami, évidemment, c'est celui du porte-monnaie.
À 10 minutes là, d'Avignon, on a payé quasiment 3 fois moins cher le logement. Hein.
On est au Yellow Village de Vedène. On est 50 dans le village. Il n'y a personne, en fait.
Du calme, de la fraîcheur, des prix à la baisse, de quoi rallonger la saison touristique, comme le voit Céline ces jours-ci sur le perron de sa boutique de brocante.
Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de touristes. De septembre, octobre, il y a de plus en plus de bateaux, les croisières enfin, qui viennent au bord du Rhône. Donc c'est vrai qu'il y a des groupes comme ça, mais bon, souvent ils passent. Ça fait quelques années que je remarque qu'il y a du monde. Quoi.
Après un mois de mai décevant et un été plombé par la canicule, cette fin de saison peut désormais faire la différence, notamment chez les restaurateurs et les hôteliers moins sous pression, quand la main d'œuvre est moins nombreuse et la clientèle, senior actif ou étranger, regarde surtout un peu moins à la dépense.
Reportage ici Vaucluse. Alors plus de 30 degrés dans de nombreuses régions du pays, un 19 septembre. Est-ce régulier? Est-ce une anomalie? Réponse de Frédéric Long, prévisionniste Météo France.
Par exemple, à Bordeaux, on a prévu aujourd'hui autour des 34 degrés. Dépasser 34 degrés à Bordeaux après un 15 septembre, ça n'est plus arrivé depuis 1987. Et c'est arrivé donc à peine quelques fois dans l'historique de la station. Pour Paris, si on atteint les 30 degrés, bon, c'est arrivé quelques fois de dépasser les 30 degrés en deuxième quinzaine de septembre, mais assez rarement quand même. Hein.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à davantage de mois de septembre chauds et davantage de journées identiques en septembre avec des températures au-dessus de 30?
Et les modèles climatiques simulent en climat futur une hausse des températures au mois de septembre également. Donc en fait, c'est la période à risque de vagues de chaleur qui, en climat futur, va avoir tendance à s'étendre. Oui, elles peuvent devenir plus fréquentes.
Frédéric Long avec Célia Kiré. Les mauvais chiffres de la sécurité routière au mois d'août avec cette mortalité qui a fortement augmenté, plus 18% par rapport à l'an dernier, le pire mois d'août depuis 14 ans. Ces chiffres font réfléchir et on cherche des causes. Et parmi ces causes, il y a peut-être notre attention de moins en moins grande en voiture en raison de ces écrans qui, eux, prennent de plus en plus de place sur le tableau de bord des véhicules, des interfaces de type CarPlay ou encore Android Auto. On suit des GPS, on reçoit des notifications, si bien qu'un quart des accidents corporels en voiture sont aujourd'hui liés à l'inattention, Laurent Kramer.
Cette inattention croissante au volant est aujourd'hui précisément mesurée. Pour regarder son téléphone ou une interface de type CarPlay, une étude française a ainsi suivi où se posaient précisément les yeux. Pendant une heure de conduite, un conducteur ne regarde ainsi plus la route pendant près de 6 minutes cumulées. Ces interfaces tactiles, toujours plus grandes, avec chaque année de nouvelles formes d'interaction possibles, interrogent les assureurs face aux constructeurs qui ne semblent pas vouloir mesurer l'impact grandissant de ces interfaces sur la conduite. Une simple notification détourne ainsi le regard d'un conducteur au volant pendant près de 500 mètres. Dominique Boulier est sociologue spécialiste du numérique.
On se rend compte qu'on passe 12 secondes à traiter une notification, ce qui veut dire 170 mètres quand on est en ville à 50 km/h et 500 mètres quand on est sur une route à 130 km/h. Il y a une forme d'emprise de ces systèmes-là et on pense précisément qu'on va être capable de gérer plusieurs activités à la fois. Ce qui est une erreur parce qu'en réalité, quand on regarde la route et qu'on doit regarder son téléphone en même temps, eh bien on les regarde successivement, on ne les regarde pas en même temps.
Pour tenir compte de ces mesures et des critiques des utilisateurs, certaines marques commencent à faire marche arrière, réintroduisent progressivement quelques boutons physiques sur le tableau de bord pour sortir des interfaces 100% tactiles.
Laurent Kramer, on reste sur les écrans avec le festival de la fiction télé de La Rochelle, un incontournable de la rentrée qui donne la température, de la création émission, puisque diffuseurs historiques et plateformes viennent y présenter leurs nouveautés. Et parmi les confirmations de cette 27e édition, Alexandra Hakoun, la place incontournable dans les récits des femmes.
Ici, pendant des années, des jeunes filles disparaissaient. Si la violence des hommes les avait épargnées, que serait-elle devenue ?
En 2025, pas question de laisser aux seuls hommes la traque du tueur de la gare de Perpignan. C'est via le prisme d'une enquêtrice tenace que Disney Plus revient sur ce fait divers glaçant qui s'étale sur plus de 20 ans dans les disparus de la gare.
Il a réussi à convaincre mon père que j'avais des troubles mentaux. Et parfois, je me dis que c'est lui qui a raison.
Il n'a pas raison, il est dangereux.
Ça, c'est l'affaire Laura Stern, bientôt sur France 2, où Valérie Bonneton répond à la violence des hommes par la violence et se fait empoisonneuse.
En fait, elle ne supporte plus de voir ces femmes vivre dans la terreur. Elle va passer à l'acte.
Changement d'époque et de méthode avec Merteuil, adaptation des Liaisons dangereuses par HBO Max, où pour devenir l'héroïne de sa propre vie, la jeune Isabelle de Merteuil va briser celle des autres avec l'aide d'une Diane Kruger délicieusement manipulatrice.
Séduire n'est rien. Vous devez apprendre à maîtriser les hommes.
Marie Gélin, elle, va bousculer sa vie de couple ronronnante en retrouvant la mémoire dans Ma femme est une espionne.
Le professeur Lérac ne va pas pouvoir vous prendre.
Ah bon, mais je fais comment moi du coup ?
Les personnages féminins, en vrai, sont toujours hyper moteurs.
Je continue à frapper n'importe quel connard et à parler n'importe quelle langue à l'improviste. Enfin, quand même, c'est pas banal ce qui m'arrive.
Une comédie hilarante à découvrir très bientôt sur M6.
Alexandra Hakoun, 13h25 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. On a parlé de la chaleur, on va parler du rafraîchissement qui va arriver aussi juste derrière en début de semaine prochaine. À partir de 13h30, les tours de Notre-Dame de Paris, le public les retrouve ce week-end, rouvertes à la visite à partir de demain pour les journées du patrimoine. 01 45 24 7000 pour vos questions à nos invités. Marie Lavandier, la présidente du Centre des Monuments Nationaux, et Philippe Jost, président de Rebâtir Notre-Dame. 13h45, la fin de notre feuilleton sur les traces d'Ousmane Dembélé, candidat au titre de meilleur footballeur du monde et un modèle pour les plus jeunes. Nous retournerons chez lui à Évreux. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous nous parlez de Concarneau en Bretagne.
Oui, Concarneau organise ce week-end les premières journées du matrimoine maritime. Et nous allons voir que les femmes aussi ont pris la mer, longtemps dans l'ombre et parfois en première ligne.
Et avec vous Frédéric, un historien, pas uniquement mais aussi historien.
Il est principalement historien, il est beaucoup de choses également, beaucoup d'autres choses. Jean-Noël Jeannenet qui produit notamment depuis plus de 25 ans l'émission Concordance des temps sur France Culture et avec
chez
lui,
nos voisins.
C'est un air d'opérette que nous écouterons, un extrait de Ciboulette de Reynaldo Hahn.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
En septembre, on a tous envie de garder un peu de soleil dans nos assiettes.
Et quelle chance, c'est encore l'été avec les fruits et légumes frais. Tomates cerises sucrées, melons gorgés de soleil, prunes de toutes les saveurs, sans oublier le raisin, avec ou sans pépins. Profitez des derniers rayons de soleil avec les fruits et légumes frais.
Alors, tomates cerises, prunes, melons, raisins, ne perdez pas un grain d'été.
Les fruits et légumes frais, c'est jamais trop.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
France Inter, partenaire du Festival mondial des théâtres de marionnettes. Du 19 au 28 septembre, Charleville-Mézières, capitale mondiale des arts de la marionnette, vit au rythme du plus grand festival de marionnettes au monde. Laissez-vous émerveiller par la diversité des propositions artistiques programmées dans toute la ville. Pendant 10 jours, cet événement unique rassemble 150 000 festivaliers venus du monde entier. Le Festival mondial des théâtres de marionnettes du 19 au 28 septembre à Charleville-Mézières, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est donc une journée estivale.
Avec beaucoup de soleil, alors tout de même quelques nuages bâtonnasses vers la pointe bretonne, vers l'Aude également, et un petit voile nuageux sur les régions de l'Ouest qui annonce la perturbation du week-end. Le vent de sud à sud-est souffle de l'Occitanie à la vallée du Rhône, jusqu'à 70 km à l'heure dans le domaine de l'OTAN, de l'Aude au Midi Toulousain. Il fait plus chaud, chaud pour la saison, on est parfois jusqu'à 8 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Comptez souvent 27 à 32 degrés, 28 à Lille, à Nantes, 30 à Paris, c'est 9 degrés au-dessus de la normale, 30 aussi à Belfort, à Nîmes, à Bastia, 32 à Tours et jusqu'à 30 à 34 voire 35 du sud-ouest au Berry, les 34 à Bourges, Bordeaux ou à Tarbes.
Et on va perdre jusqu'à 10 degrés ce week-end, Elodie.
Oui, changement de temps, un passage brutal de l'été à l'automne. Il va faire encore chaud samedi, mais les premiers orages circuleront à l'ouest en journée et une dégradation orageuse marquée s'organisera du sud-ouest aux frontières du nord dans la nuit de samedi à dimanche. Elle se décalera vers l'est et la Méditerranée pour la journée de dimanche et sera suivie en effet d'une nette baisse des températures. Par exemple, à Bordeaux, il fera encore 30 degrés samedi, on n'aura plus que 20 degrés dimanche. À Strasbourg, 32 samedi sous le soleil, 24 dimanche après-midi. Et à Paris, on passera de 26 à 19 degrés. Et puis, il fera encore 30 degrés tout de même du côté de la Côte d'Azur ou de la Corse, mais ça baissera pour lundi.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Nous sommes le 15 avril 2019. L'incendie dévore Notre-Dame de Paris. Une heure plus tôt, la flèche de la cathédrale s'est effondrée quand à 21h, des flammes sont visibles dans la tour nord. Si elle s'effondre, tout l'édifice suivra. Une équipe d'une vingtaine de pompiers est alors envoyée au feu dans les tours.
On a eu un quart d'heure en disant, en fait, on place là-haut un commando de choc et en fait, on tente tout pour le tout pour enrayer cette propagation qui était initiée. Ça, c'est une décision de chef.
Le feu a baissé en intensité grâce à l'action courageuse donc, des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, nous sommes entrés maintenant dans une phase de refroidissement de l'édifice. Donc, au moment où on se parle, il faut rester extrêmement prudent, mais on peut penser que la structure de l'édifice est sauvée, notamment le beffroi nord.
La structure est sauvée, dit à 23h le secrétaire d'État Laurent Nunez, après que le lieutenant-colonel des pompiers Josefas de Matos a expliqué la stratégie qui a donc sauvé la cathédrale et ses deux beffrois nord et sud, deux tours qui depuis sont fermées à la visite et qui rouvrent demain à l'occasion des Journées du patrimoine, 9 mois après la cathédrale. Pour en parler avec nous, deux invités, Marie Lavandier, bonjour.
Bonjour.
Présidente du Centre des Monuments Nationaux et Philippe Jost, bonjour.
Bonjour.
Président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, 01 45 24 7000 pour être avec nous. Vous passez également via l'application Radio France. Marie Lavandier, Philippe Jost, ça fait toujours quelque chose de réécouter ces archives et ça fait peut-être aussi du bien de se souvenir d'où on vient.
C'est important parce que l'héroïsme des pompiers, il a été incroyable. À ce moment précis de l'incendie, où la bataille du feu a été gagnée, à savoir dans ce beffroi nord, et maintenant que je connais bien ce beffroi, je mesure le courage qu'il fallait pour se lancer dans les flammes, dans cette structure.
Oui, elles ont changé un peu de physionomie, mais pas tant que ça. Et on conçoit en visitant, on va écouter la visite guidée dans quelques instants, le courage qu'il aura fallu et à quel point il était périlleux d'intervenir. Elles reviennent de loin, ces tours, Marie Lavandier ?
Oui, elles reviennent de loin. On est très très heureux évidemment de pouvoir les rouvrir. Vous le disiez, bien sûr, on a tous les images de l'incendie en tête. Bien sûr, chacun sait exactement ce jour-là, ce qu'il faisait, où il était. C'est un événement mondial. Et je crois que continuer l'aventure de la réouverture de Notre-Dame, qui ne s'est pas arrêtée au 7 et 8 décembre dernier, qui continuer l'aventure de sa restauration, au-delà parfois même d'ailleurs des parties qui avaient été touchées par le feu.
On va en parler.
Pour la réparer, c'est quelque chose qui a du sens, bien sûr, on est fiers. C'est une forme de résilience. C'est une démonstration aussi qu'on a été capable, et on ne l'aurait pas cru, de faire des choses inimaginables, tous ensemble, en alliant les métiers, les savoir-faire, et puis qu'on est capable de rouvrir aujourd'hui et de partager cette aventure avec le grand public. Ça, c'est évidemment au quotidien toujours une joie.
Avant de vous donner davantage la parole, je vous propose d'aller visiter. Nous avons rendez-vous sur le parvis avec notre guide Julie Chaffir du Centre des Monuments Nationaux. Il y a énormément de monde. Bonjour, vous êtes Julie ?
Bonjour, enchantée.
Julie Chaffir.
Oui, alors je suis chef de projet médiation et scénographie au Centre des Monuments Nationaux. Voilà, on va commencer ici par la tour sud et puis on finira notre parcours par la tour nord.
On y va ?
Allons-y. 424 marches qui nous attendent. Et bien voilà, nous sommes
on
dans la...
On reprend son souffle.
Voilà, on reprend son souffle et nous arrivons ici maintenant la salle des quadrilobes. Et là, vraiment, on est dans le beffroi. Donc le beffroi, c'est le lieu qui supporte les cloches. Les cloches qu'on entend à travers notre paysage sonore, elles sont au-dessus de nous.
Cet escalier, il était là avant 2019 ?
Non, cet escalier, c'est une construction contemporaine et originale pour la réouverture du parcours de visite. Ici, on a un escalier. Donc sa particularité, c'est que c'est un escalier à double révolution. C'est-à-dire
qu'on peut monter et descendre ?
Sans se croiser.
Allez, voilà les cloches.
Les voici, les bourdons. Donc ces grosses cloches que nous avons sous les yeux.
Marie ici à gauche et Emmanuel à droite.
Exactement, c'est la deuxième plus grosse cloche de France après celle du Sacré-Cœur. Donc elle a été fondue en 1686 et son parrain était Louis XIV. Donc c'est une cloche qui est là depuis très longtemps et puis c'est une cloche exceptionnelle.
13 tonnes.
Exactement, elle fait 13,3 tonnes. Marie est un peu plus petite. Elles ont sonné tout au long de l'histoire de France. Donc Emmanuel, depuis le XVIIe siècle, sonne en fait pour tous les grands événements qui ont marqué l'histoire de France. Du sacre de Napoléon, de la libération de Paris, mais également pour les attentats en 2015.
On est arrivé au sommet, Julie ?
Bien, ça y est, nous y sommes.
Donc nous sommes au sommet
mètres.
De la tour sud. Quelle hauteur ?
Nous sommes à 69 mètres de haut. Voilà, la Sainte-Chapelle juste devant vous. Puis la tour Eiffel, bien entendu. La Défense aussi au loin. Donc là, on s'apprête à ressortir et arriver sur la cour des citernes. Donc on est entre les deux tours.
On est dans cette cour, c'est un lieu parfaitement incroyable.
On a des points de vue sur le monument, donc parce qu'on a... la tour nord, la tour sud, on a des points de vue sur les chimères qu'on voit en contre-plongée. Et puis on a ici un point de vue exceptionnel sur la charpente également. Il y a une vitre qui nous permet d'observer cette véritable forêt.
Donc ça c'est la forêt donc, qui a brûlé, on s'en souvient, en 2019 et qui a été intégralement refaite.
Elle a été restaurée à l'identique avec près de 1200 chênes français. Donc là, c'est une véritable prouesse, un véritable travail d'artisan pour reconstruire à l'identique un chef-d'œuvre médiéval.
Donc là, on pénètre dans la tour nord. Julie, est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce qu'on se trouve ? Là encore, une pièce très vaste qui doit faire plusieurs dizaines de mètres de hauteur. On se retrouve avec une charpente, en fait, autour de nous ?
Tout à fait. On est dans le beffroi, mais cette fois-ci dans le beffroi nord. Mais au-dessus de nous, maintenant, on a les Benjamines, qui sont ces huit cloches qui sonnent tout au long de la journée.
Donc là, les huit cloches, elles sont au-dessus de nous ?
Oui, alors on les voit pas, parce qu'on a un parquet, mais elles sont effectivement au-dessus de nous. Plus que 114 marches.
Avant la sortie.
Et voilà.
On sort face au café directement.
Ce qui est vraiment très touchant, c'est... ces pierres, ce bois, cette charpente, vraiment ces matières qui ont traversé le temps. Et vraiment, ce rapport au temps est quand même assez incroyable. On est un peu hors du temps quand on monte dans ces tours.
Vous avez le sentiment de voyager dans le temps quand vous êtes dans ces tours ?
Oui, un petit peu quand même. On traverse des époques et puis on revient là, à notre époque, en sortant sur le parvis.
Voilà pour cette visite guidée. Je remercie notre guide Julie Chaffy. On va vous donner les modalités de réservation dans un instant. Malheureusement, c'est déjà complet pour ce week-end. D'abord, je voudrais partager avec vous mon impression. C'est la lumière, Marie Lavandier, qui est vraiment très frappante.
Merci beaucoup. Oui, en effet, les tours, ce sont des lieux qui n'étaient pas ouverts au public. C'est des locaux techniques, en quelque sorte. Et précédemment, en fait, la visite des tours de Notre-Dame, on montait à travers des escaliers comme dans des boyaux, si vous voulez, sans lumière ou quasiment. On arrivait ensuite, évidemment, sur cette vue sublime depuis le toit des tours de Notre-Dame, la plus belle vue, à mon sens, de Paris, parce que vraiment vue depuis le cœur de Paris. Uh-huh. Et ensuite, on redescendait par ces escaliers aveugles. Aujourd'hui, on vit des expériences tout au long de l'ascension. On passe dans des salles, mais même les escaliers sont lumineux. Ils sont tous éclairés. Vous baignez dans un bain de lumière. Ceci dit, cette lumière intérieure est magnifique, mais elle n'a rien à voir avec celle qui vous attend au sommet.
Philippe Just, les deux tours n'étaient pas du tout dans le même état après l'incendie. Le feu avait ravagé la tour nord. Pour la tour sud, là, il s'agissait davantage de réparer les injures du temps, si je puis dire.
Exactement. En fait, la cathédrale n'était pas en bon état au moment de l'incendie. Hein, et on s'en est aperçu dans la tour sud parce que l'incendie n'avait pas pénétré dans la tour sud. Mais là, en revanche, il y a l'eau qui avait pénétré au fil des années, des infiltrations. Donc, on a finalement, sur le Beffroi Sud, fait le même genre de réparation, de remplacement de pièces de bois. Et puis, on a dû remplacer aussi la couverture de la tour sud. On a dû faire beaucoup de choses. Et puis aussi, même toucher au bourdon, au gros bourdon, aux deux bourdons, remplacer leur joue, c'est-à-dire la grande pièce de bois qui supporte ces cloches et leur permet de sonner à la volée.
Avec toujours le recours au savoir-faire et aux entreprises françaises. Alors, je crois pour l'escalier en Normandie et pour les joues en Alsace, me semble-t-il.
Alors, c'est ça qui est formidable, c'est que ces espaces magnifiques, et je crois qu'ils sont spectaculaires, et je pense qu'on sera, comme on l'a été en redécouvrant l'intérieur de la cathédrale en décembre dernier, on sera émerveillé en parcourant ces espaces. C'est une formidable démonstration des savoir-faire, des compétences, de l'excellence française dans ce domaine des métiers du patrimoine, des métiers d'art. On peut vraiment être fier de détenir en France toutes ces compétences.
Marie Lavandier, vous avez décidé d'abaisser la jauge. 450 000 visiteurs par an, ça c'était avant 2019. On va passer à 400 000 et à augmenter le prix de la visite. Le tarif, c'était 10 euros, c'est désormais 16 euros. Pour quelle raison ces deux choix ?
Alors d'abord, bon, ça fait 6 ans, donc entre-temps, les tarifs un petit peu partout ont augmenté régulièrement. Uh-huh. Ensuite, c'est effectivement pas du tout la même expérience qu'avant, je vous le disais. On monte pas tout droit sur le toit maintenant. On rentre vraiment, on pénètre dans les mystères des tours de la cathédrale qui contiennent ces beffrois. Hein. Les beffrois, ce sont des tours de bois qui doublent les tours de pierre. Et ces beffrois qui soutiennent les cloches qui rythment la vie de la cathédrale depuis des siècles. Donc c'est plus la même expérience, c'est effectivement plus le même prix. Mais par contre, cette expérience qui est très belle, on a voulu qu'elle se vive dans le confort, dans la qualité, dans la sérénité, pour que chacun puisse y trouver ce qu'il est venu y chercher au-delà de la vue sublime sur Paris. Et du coup, effectivement, on a fait le choix, beaucoup de nos collègues font ces choix en ce moment, ils sont courageux, mais de recevoir moins de visiteurs pour les recevoir bien et qu'ils puissent échapper pendant quelques minutes à cette foule, certes merveilleuse, mais qu'abrite aujourd'hui l'île de la Cité tous les jours.
Et pendant les visites, les travaux continuent, Philippe Jost. L'établissement public Rebâtir Notre-Dame existe toujours. Très récemment, la Cour des comptes a rendu un avis sur la restauration de la cathédrale. Quand les trains n'arrivent pas à l'heure, on le dit sur France Inter, donc on dit aussi quand les trains arrivent à l'heure. Je cite le bilan de la Cour. Chantier rigoureusement géré, budget et calendrier respectés grâce à la réactivité des équipes et à la coordination des différents acteurs. Fin de citation. Si bien Philippe Jost qu'après ce satisfait-cite, il vous reste de l'argent. À quoi va-t-il servir ?
Il nous reste effectivement 140 millions d'euros, ce qui est quand même une jolie somme. Et ça tombe bien, parce qu'au-delà des dégâts de l'incendie, eh bien, il y a des choses à faire sur cette cathédrale qui n'était pas en bon état, on l'a dit un instant, avant l'incendie. Et on a fait tout, on a restauré tout l'intérieur, on a maintenant restauré ce parcours de visite dans les deux tours, on a bien sûr refait le grand comble et la flèche. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut restaurer les extérieurs, les élévations sur les côtés, hein, la sacristie aussi. Et c'est des choses... On a une ambition maintenant, c'est d'aller jusqu'au bout. En fait, le plus gros du travail est fait, avec tout ce qu'on a fait depuis 2019. Maintenant, on veut aller jusqu'au bout.
Donc vous lancez un nouvel appel aux dons ?
Alors, on lance un nouvel appel aux dons, justement parce que les 140 millions d'euros nous permettent d'attaquer les travaux qui sont en cours sur le chevet de la cathédrale. Mais au-delà de cela, et pour aller jusqu'au bout, il nous faudra encore un complément, encore un certain nombre de millions d'euros. Et donc, on fait appel à la générosité de tous ceux qui aiment Notre-Dame de Paris, qui ont déjà donné ou qui ont envie de donner.
Mais est-ce qu'il ne serait pas temps, Notre-Dame de Paris a beaucoup reçu, de donner vers d'autres monuments qui en ont peut-être besoin, Marie Lavandier ?
Vous savez, moi je crois que dans la vie, il faut des vaisseaux amiraux. Notre-Dame, c'est un vaisseau amiral. Et en plus, Notre-Dame a été blessée. C'est très important, effectivement, de pouvoir poursuivre sa réparation, sa restitution. Mais pour autant, il faut le dire, et vous le savez, chaque jour, à la fois les puissances publiques, l'État, les collectivités locales, les propriétaires privés aussi, évidemment nombreux, sont au chevet de monuments qu'ils s'attachent à non seulement entretenir, parfois modestement, quotidiennement, tous les jours, qui s'attachent aussi à faire vivre et à partager. Ça, c'est quelque chose
Mais
que je pense très important.
Mais il y a des besoins financiers énormes.
Il y a des besoins qui sont
du patrimoine qui est moins prestigieux que Notre-Dame.
Absolument considérable. Alors bon, ben, par exemple, effectivement, notre établissement, le Centre des Monuments monuments nationaux, vous le savez, s'occupe de 110 monuments sur tout le territoire, des très grands, des très connus, Notre-Dame de Paris, bien entendu, en tout cas pour les tours, l'Arc de Triomphe, le Panthéon, la Sainte-Chapelle, mais aussi des petits monuments méconnus au cœur des territoires, les plus grands permettant de financer une partie de l'entretien, de la restauration des plus petits. C'est l'État au quotidien. Il y en a effectivement à la fois pour les grands et pour les petits. Par contre, il faut jamais oublier le patrimoine. Il bouge vite. Le climat a un impact sur lui. Il faut continuer à l'entretenir.
Philippe Joss, les frais d'exploitation de Notre-Dame sont aujourd'hui plus élevés que prévu, 5 300 000 euros par an, en raison notamment des nouvelles contraintes de sécurité. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce que vous avez les moyens de régler cette facture? Est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir faire payer l'entrée de la cathédrale?
Alors, on a les moyens de régler cette facture, et je crois qu'il y a... On peut, dans le fond, que se réjouir qu'il y ait maintenant les moyens d'assurer la sécurité du monument. Et de ce, on a, ça nous donne l'assurance de ne pas revivre des drames comme celui qu'on a vécu en 2019.
Mais ça a un coût.
Mais ça a un coût, et c'est le coût de la sécurité du monument.
Et donc, est-ce qu'il faudra faire payer, selon vous, l'entrée, ou est-ce que vous arriverez à trouver des ressources?
Ouais, je pense que c'est clair que le patrimoine en France a besoin de ressources, parce qu'on a un patrimoine exceptionnel dans ce pays, Marie Lavandier vient de l'évoquer, mais aussi en main privée, aussi dans les mains des municipalités. Et je crois que le drame de 2019, il permet de prendre conscience que ce patrimoine, il faut se donner les moyens de l'entretenir et de le léguer aux générations à venir.
La visite des tours complète ce week-end, mais on peut aller sur Internet pour réserver des créneaux à suivre. Ça, c'est pour les tours. Mais pour le village chantier, il se visite et gratuitement ce week-end, sans réservation pour ceux qui auront la chance d'approcher Notre-Dame de Paris ce week-end à l'occasion des journées du patrimoine. Merci à tous les deux. Marie Lavandier, présidente du Centre des Monuments Nationaux. Philippe Joss, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Dernier épisode de notre feuilleton à la découverte du fabuleux destin d'Ousmane Dembélé. Le joueur du Paris Saint-Germain peut devenir lundi le 6e joueur français à remporter le Ballon d'Or, le trophée de meilleur footballeur du monde. Un joueur au parcours chaotique, souvent freiné par les blessures et pour qui tout a débuté dans le quartier sensible de la Madeleine à Évreux. Nous y retournons aujourd'hui pour mesurer son héritage.
C'est le haut-parleur de la ville en soi.
Il a un peu mis la lumière déjà sur notre ville, déjà, faut le dire. Parce qu'on n'entend pas souvent des bonnes choses. Et ça, c'est une très très bonne chose. C'est une étoile. C'est une étoile pour la ville.
Ousmane, Ballon d'Or.
Maintenant, avec la notoriété qu'il a, la ville, elle sait qu'il y a des talents. Et du coup, faut investir sur eux. Ici, sur ce terrain-là, je crois que ça doit faire 2 ans, ils nous ont mis un synthétique. C'était du béton, ils nous ont mis du synthétique. Aujourd'hui, on peut jouer tranquillement, sans se blesser. C'est grâce à lui.
Et surtout, quand on le revoit et quand il revient nous voir, c'est toujours la même personne. Donc, on est fiers de lui.
Quand je le croise, en tout cas, c'est jamais seul. C'est souvent avec des petits. Et, allez, on va manger, on va là-bas, on se balade, je joue pas ici. Pour les grands, pour les petits, pour les moyens, pour tout le monde.
On l'aime hein, dans la simplicité.
S'il remporte le Ballon d'Or, le quartier il aura un Ballon d'Or. Hein. Ouais, ce sera incroyable.
Là, je vois personne d'autre que lui.
En tout cas, dans le top 3, il y a au moins 2 joueurs du PSG. Au moins.
Là, ils ont fait une saison.
Dans le top 5, il y en a
incroyable.
Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de Ballon d'Or.
Le Ballon d'Or, il va ramener à Évreux.
Il n'y a pas de débat.
On les trouve, les bleus, avancez un peu.
La première chose qu'on voit, c'est ce grand portrait, cette grande affiche. Quand on franchit la grille de ce stade Mathieu Baudemer, un peu à l'extérieur d'Évreux. Évreux, terre de champions, avec plusieurs joueurs passés ici, Brice Samba, Steve Mandanda, Dayo Upamecano, mais surtout, au centre, en gros, qui brandit le poing et qui rugit, Ousmane Dembélé, saison 2004-2010, la fierté donc de ce club Évreux FC 27.
Romaric Bultel, conseiller du président Samuel Brigantino, depuis peu. Sans ça, j'ai toujours été éducateur, entraîneur à Évreux FC 27 depuis... ma tendre enfance, et joueur également. C'est celui dont on parle énormément, c'est celui qui a amené la Ligue des Champions avec le PSG. Ici, il y a quand même beaucoup de supporters parisiens.
Ce qu'on ne sait pas forcément quand on ne connaît pas bien le football, c'est que quand un joueur est formé et découvert dans un petit club, dès qu'il est transféré ensuite de club en club, de grand club en grand club, eh bien, le tout premier club touche des indemnités.
En effet, indirectement, parce que en parlant vulgairement, ça ne sort pas de sa poche, mais il y a contribué énormément. Et pour des clubs amateurs, c'est une richesse importante. Clairement, ça met clairement du beurre dans les épinards. Ça donne des moyens de transport pour pouvoir déplacer nos jeunes, refaire les maillots, investir un peu dans le matériel, ballons et tout ce qui s'ensuit. Voilà, on est surtout sur ça, sur ce qui peut être utile pour les enfants.
Combien de jeunes qui viennent de s'inscrire pour cette nouvelle saison ? Vous en parlez d'Ousmane Dembélé en franchissant ses grilles.
Oui, bah clairement, tout le monde veut venir à Évreux. C'est pour ça qu'on est limité aussi en place, parce qu'on a à la fois tous nos licenciés qui sont issus d'Évreux à 90%, et on en refuse malheureusement, mais on a aussi toutes les villes limitrophes, enfin, même les départements limitrophes, qui font que les jeunes veulent venir à Évreux, parce que c'est une terre de champions, et une façon de travailler à Évreux qui fait qu'on arrive à sortir énormément de joueurs. Donc du coup, tout le monde se dit, bah, y a peut-être une solution miracle.
Emma Sarango pour ce feuilleton, réalisation Vincent Godard. Vous les retrouvez sur l'application Radio France, et on croise les doigts pour Ousmane Dembélé, verdict lundi soir.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi 13h49, la France des cimes et des océans, avec Virginie Troussy en direct de Quimper aujourd'hui. Virginie, nous partons à Concarneau, dans le sud Finistère, où se déroulent ce week-end les premières journées du matrimoine.
À Concarneau, la mer est au cœur de la ville, historiquement et physiquement, puisqu'elle remonte haut dans la cité. La mer donne toujours de l'ouvrage. Hier, la pêche et les conserveries. Aujourd'hui, la pêche encore, avec le débarquement matinal du poisson à la criée, mais aussi la construction navale, les écuries de course, les centres de formation nautique et la maintenance des bateaux de plaisance. Et puis, sur la corniche, c'est déjà le large. Les voiles se gonflent en quittant le port, les goélands raillent et les véliplanchistes virevoltent dans la baie. Ce week-end, c'est un souffle nouveau qui traversera Concarneau, car l'association Maritimo mettra à l'honneur l'héritage culturel des femmes dans le milieu marin avec les toutes premières journées du matrimoine maritime.
Ce mot matrimoine, moi il me paraît moderne, mais en fait il est très ancien.
Exactement, le mot apparaît dès 1155. Il désigne les biens de la mère, comme le patrimoine désigne ceux du père. Jusqu'à la Renaissance, c'était un mot couramment employé, mais il disparaît ensuite des dictionnaires, effacé par son pendant masculin. Le sort est le même pour des noms féminins comme mairesse ou autrice, effacés peu à peu. L'enjeu de ces journées du matrimoine ne sera pas seulement de rendre visible l'héritage des femmes, mais de retrouver des œuvres, des figures oubliées et de recoudre une histoire trouée de toutes parts.
Oui, parce que quand on pense aux femmes et à la mer, on pense d'abord à des femmes de marins qui attendent au port.
En effet, Jérôme, les femmes ont été moins nombreuses à traverser les océans. Dans l'ombre, derrière leur mari, leur savoir-faire était pourtant indispensable. Elles vendaient le poisson, réparaient les filets, brossaient les morues, rapiéçaient les habits, géraient le maigre budget. Mais les femmes aussi partaient en mer, et on a tendance à l'oublier. On le verra ce week-end à Concarneau. Par exemple, connaissez-vous Sonia de Bodoreski ? Elle fut en 1963 la première femme marin-pêcheur de France. Elle a dû se battre pour faire changer la loi Colbert, qui interdisait aux femmes de monter à bord d'un navire de pêche. Et puis, saviez-vous qu'au 19e, 20e siècle, près de 30% des gardiens de phare étaient en fait des gardiennes. Elles étaient pourtant cantonnées au statut d'auxiliaire, alors qu'elles faisaient le même métier que les hommes.
Qu'avaient-elles en commun, ces femmes qui aimaient et qui prenaient la mer ?
Eh bien, elles s'affranchissaient des destins assignés, elles se moquaient des normes, refusaient les limites de genre qu'on voulait leur imposer. Elles aimaient la griserie du vent, la sensation de liberté, le parfum de l'aventure. Elles portaient en elles le goût de l'ailleurs. Pour mieux entendre leur voix, il faudra se rendre ce soir à la librairie Albertine, face au port, toujours à Concarneau. Une soirée de lecture à voix haute portera les récits de surfeuses, navigatrices, pêcheuses et de toutes les amoureuses de la mer. On se souviendra aussi de l'aventurière Anita Conti, première océanographe française, à la fois poétesse et scientifique, qui disait, un peu portée par l'impermanence de la mer, « Je ne vis pas de souvenirs, si cela vous intéresse, c'est à vous de vous en occuper ». Eh bien, les Concarnoises et les Concarnois s'en occuperont bien volontiers ce week-end. Car c'est cela le matrimoine maritime, laisser vibrer des voix longtemps oubliées, les faire circuler jusqu'à nous. C'est en faisant entendre le passé qu'on esquisse l'avenir et que l'horizon reste ouvert.
La plume de Virginie Troussier dans ce 13-14. Je voudrais aussi signaler, Virginie, aux auditeurs, la sortie aujourd'hui en poche de votre récit « Au milieu de l'été, un invincible hiver ». C'est aux éditions Paul Sen. Je vous dis à vendredi prochain. De C'est la France à C'est une chanson. C'est un historien qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier. Il s'agit de Jean-Noël Jeannonnet.
Jean-Noël Jeannonnet, ancien président de Radio France, oui, et de la BNF. Par deux fois secrétaire d'État, animateur de l'émission Concordance des temps sur France Culture et qui est par ailleurs auteur de chansons. Certaines d'entre elles sont réunies dans un livre, Chansons pour mémoire, ouvrage accompagné d'un disque. Et c'est une opérette qu'il a souhaité que l'on écoute, un air de Ciboulette de Reynaldo Hahn. Nous avons fait un bon voyage, un souvenir d'enfance.
J'ai 12 ans et mon père achète un pick-up, plus qu'un pick-up, un énorme meuble. C'est la première fois que nous avions ce genre d'appareil à la maison. Et il avait en même temps acheté ce disque, qui lui rappelait probablement de bons souvenirs. Et du même coup, cet air-là est resté dans ma mémoire avec une force spécifique. J'ai du coup pour lui une dilection particulière. Et puis j'ajoute que mon grand-père, qui avait été un homme politique assez important de la Troisième République et qui était presque nonagénaire, a écouté avec nous cet extrait de l'opérette. Et il nous a dit que cela avait évoqué pour lui les souvenirs de sa jeunesse dans les années 1880 au Quartier Latin. Ça, c'est de l'histoire, non ? Je force un peu le trait, peut-être, mais je me dis que le plaisir que j'ai eu à l'entendre a peut-être été à l'origine d'une vocation particulière d'historien, c'est-à-dire la conviction que les chansons peuvent servir la connaissance du passé et accompagner par conséquent le récit qu'on en fait.
Donc finalement, cette chanson-là, tirée de cette opérette, elle vous ramène à un partage entre trois générations.
Oui, oui, c'est pour ça que je suis content que vous m'ayez donné l'occasion de le dire. Et puis d'autre part, comme historien, je suis frappé de ce que c'est dans les années 20 que cette chanson est créée par Reynaldo Hahn, qui était vraiment un Parisien, un grand ami et amant de Marcel Proust, et qui ne donnait pas l'impression d'être très familier de la campagne française. Et par conséquent, on voit dans cette terre comme la campagne vue depuis Paris, un peu idéalisée, et du coup assez charmante, mais peu importe. C'est le principe de la chanson, n'est-ce pas ?
Nous avons fait un beau voyage.
Nous avons fait un beau voyage.
Nous arrêtant à tous les pas.
Nous arrêtant à tous les pas.
Buvant du cidre à chaque village.
Buvant du cidre à chaque village.
Cueillant dans les clos des lilas.
Cueillant dans les clos des lilas. Nous avons rencontré des dindons emphatiques.
Des lapins prolifiques.
Des chapeaux vieux garçons.
Dans cette version, Frédéric, les chanteurs s'appellent Michel Danse et Liliane Berton.
C'est la version préférée de Jean-Noël Jeannonnet, à qui j'ai demandé si lui aussi avait fait de beaux voyages dans sa vie.
Oui, beaucoup. Beaucoup. J'ai eu une bourse en sortant de l'école normale. Une bourse de voyage de la Fondation Saint-Gilles-Polignac, qui offrait à quelques anciens élèves de telle ou telle école la possibilité de voyager autour de la planète pendant un an. Ce que j'ai fait. J'en ai tiré d'ailleurs mon premier livre, qui s'appelait « Le riz et le rouge », parce que c'était la partie orientale que j'ai traitée là. Et puis j'ai traversé les États-Unis en voiture aussi. Bref, j'avais fait un beau voyage.
Est-ce que le fait que ce soit votre père qui finalement vous ait fait découvrir ce morceau-là, ça joue dans le fait que ce morceau a autant d'importance ?
Il se peut, je n'y avais pas réfléchi auparavant, mais c'est vrai que j'avais pour mon père beaucoup d'admiration et beaucoup d'affection. C'est la mode actuellement dans beaucoup de romans de dire mon père, c'était terrible, c'était la haine, c'était la haine. J'ai eu la chance que ce ne soit pas le cas et nous étions très différents, mais très intimes dans beaucoup d'aspects de la vie, notamment intellectuels. Je le vois encore effectivement arrivant avec cet appareil considérable et tout content d'avoir choisi ce disque chez le disquaire pour le poser lui-même sur la platine et nous le faire entendre.
Des cigales inspirées,
des lézards couchés tôt.
Nous avons rencontré des vaches en robe de bure,
des chèvres en fourrure, des moutons en manteau.
Nous avons rencontré sacristain et son chien.
Cet air de l'opérette Ciboulette, quand vous l'entendez, il vous plonge dans quel type d'émotion ? Est-ce que c'est de la joie ? Est-ce qu'il y a de la nostalgie ?
Il n'y a pas de nostalgie. Il y a la joie d'être fidèle à ce qui fut mon bonheur de naguère. Oui, vous m'avez fait, Frédéric Pommier, en me demandant de choisir un air, parmi tant d'autres possibles, m'avait permis de restituer un moment qui m'est cher, même plus cher que je ne me l'étais figuré auparavant. Je vous en sais gré.
Les oiseaux se mettent en ménage.
Les oiseaux se mettent en ménage.
Tout le monde voudrait en faire autant. Tout le monde voudrait en faire autant.
Nous avons fait un beau voyage, extrait de Ciboulette de Reynaldo Hahn. C'était donc, Frédéric, le choix de Jean-Noël Jeanneney.
Jean-Noël Jeanneney, dont vous pouvez retrouver les textes des chansons à la fois en disque et dans un livre Chansons pour mémoire, publié aux éditions des Équateurs.
Merci Frédéric et à lundi. Je vous en sais gré. C'est donc l'heure des remerciements pour cette semaine de 13-14. À la rédaction en chef Estelle Schmitt et Sébastien Sabiron. Cécilia Arbonna et notre chargée de programme Camille Poux-Jalagui, à qui nous souhaitons à toutes deux de beaux anniversaires. Coordination Swad Bellani, Rachid Zourdani, Nicolas Sabat et Stéphane Rousset. À la technique Arnaud Caillé et Ludovic Asselot, sans oublier nos standardistes. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan à suivre.